Là, je vous sens inquiet parce qu'il a dit le temps est arrêté, donc il va se dire qu'il va en profiter, Jean-Marc, et tout. Rassurez-vous, j'ai quand même une montre. Chers frères et sœurs, bonjour. C'est un peu le micro. Nous voici donc dans le premier dimanche de l'Avent. Nous allons célébrer l'incarnation. Cela nous a été rappelé tout à l'heure pendant le culte. Dans les évangiles, Jésus se désignait habituellement comme le Fils de l'homme. Alors, il est bienvenu de rappeler ce titre qu'il se donnait, le Fils de l'homme, alors que nous parlons de sa venue dans l'humanité au mois de décembre, depuis quelques siècles maintenant. Que voulait dire Jésus lorsqu'il se désignait comme le Fils de l'homme ? Alors, dans le Nouveau Testament, il est bien écrit « le Fils de l'homme » et pas « un Fils d'homme ». La nuance est de taille. Qu'est-ce que Jésus voulait dire ? Voulait-il éviter de parler de sa divinité, de sa messianité ? Voulait-il peut-être appuyer sur sa simple humanité ? Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est l'homme. Jésus n'était-il qu'un homme ? Attention à ne pas se méprendre, je l'ai dit il y a un instant, Jésus ne disait pas un simple homme, il disait le Fils de l'homme, comme s'il n'y en avait qu'un. Et cette expression n'est pas gratuite. Le prophète Daniel désignait le Messie à venir, qu'il appelait de ses vœux, comme le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est un des titres du Messie. Et que Jésus se surnomme le Fils de l'homme est significatif de l'image qu'il avait et qu'il donnait de lui-même, le Messie. Mais le Messie était un homme, tout autant qu'il était Dieu et qu'il l'est toujours. Le Messie sera humain, disait le prophète Daniel, mais cet homme-là sera le Messie et sera aussi Dieu le Fils. Ça, c'est moi qui l'ajoute. C'est moi en tant que chrétien, avec toute cette relecture que le Nouveau Testament nous offre des textes des prophéties de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous commençons à célébrer l'incarnation, Jésus venu dans le monde comme un homme. Il est très difficile de cerner la personne de Jésus, tout autant homme qu'il est, tout autant Dieu. Arrêtons-nous une minute, nous le disons très fortement, cette double nature de Jésus-Christ. Mais là, comprenons-nous ? Pas du tout. Moi non plus. C'est trop pour nous, on n'y arrive pas. D'ailleurs, comment comprendre Dieu ? Et d'ailleurs même, comment comprendre l'homme ? Donc finalement... Acceptons ce que la Bible nous dit. Jésus, Fils de l'homme et Fils de Dieu. Cette semaine, nous allons aborder, cela a été dit dans les annonces, le thème « Travailler son caractère ». Bien intentionné, ma chère épouse m'a glissé à l'oreille tout à l'heure, ça c'est pour toi. Je me suis abstenu de lui répondre ce que je pensais, mais vous pouvez deviner ce que je pensais. Notre caractère. Comment y travailler ? Comment grandir aussi dans ce domaine ? Tiens, en fait, quel caractère avait Jésus ? Car il avait du caractère, Jésus. Jésus, le Fils de l'homme, était-il patient ou impatient ? Était-il énergique ou flegmatique ? Était-il courageux ? Était-il sanguin parfois ? A-t-il exprimé ses sentiments ? A-t-il été fatigué, inquiet, joyeux, triste, fâché ? Posons-nous ces questions. Nous avons l'habitude d'insister sur la divinité de Jésus-Christ, et nous avons raison. Mais que ce ne soit pas à oublier pour autant l'humanité de Jésus-Christ. Car c'est dans cette humanité-là qu'il va nous donner l'exemple qu'il nous faut suivre. À comprendre, autant que les évangiles nous le permettent, comment Jésus a vécu son humanité en tant que Fils de Dieu, à comprendre ceci, nous n'en vivrons que mieux notre humanité en tant qu'enfant de Dieu. Si Jésus a pleuré, autorisons-nous, nous aussi, à exprimer nos sentiments. Et posons-nous la question, qu'est-ce qu'il a fait après avoir pleuré? Si Jésus a exprimé sa contrariété, a été parfois rude, autorisons-nous à dire ce que nous pensons au risque de nous opposer à l'un ou à l'autre? Si Jésus avait du caractère, ayons-en aussi. Soyons nous-mêmes, sans passer par un genre de chirurgie esthétique du caractère, à viser une perfection lisse, sans rides, insipide. Ah, je vous inquiète, vous vous interrogez. Est-il en train, ce brave Jean-Marc, de prétexter l'humanité de Jésus pour laisser libre cours à nos mauvais caractères? Vais-je prétendre avoir le droit de me fâcher à tout va sous le prétexte que Jésus s'en est pris au marchand du temple un jour? On dit qu'il s'est fâché à ce moment-là, alors moi ça me laisse carte blanche pour me fâcher quand je veux. Est-ce que c'est ça que je suis en train de vous dire? Non, bien sûr, non. Mais je dis que de souligner l'humanité de Jésus, d'affirmer qu'il avait son caractère, nous ouvre clairement la perspective d'être nous-mêmes en tant que chrétiennes et chrétiens, d'avoir notre propre personnalité et d'avoir notre caractère. Et que tout ceci, ce caractère que nous avons, soit renouvelé, visité, sanctifié par Dieu, par son Esprit, travaillé par Dieu et par son Esprit, et aussi par nous-mêmes. Alors, les deux exemples que j'ai cités rapidement, j'y reviens. Jésus a pleuré. C'est un texte que nous trouvons dans l'évangile de Jean, une histoire qui commence mal et se termine bien. Au chapitre 11, au verset 32. Jésus n'est pas à Béthanie, et à Béthanie se passe un drame. Son ami Lazare est en train de mourir. Jésus est appelé par Marie, la sœur de Lazare, et il arrive, mais trop tard. Lazare est mort. Verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort !» Quand Jésus la vit pleurer, et quand il vit pleurer aussi les Juifs qui étaient venus avec elle, son esprit s'emporta et se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens voir !» Jésus fondit en larmes. Les Juifs disaient donc, « T'es vraiment son ami !» Première description des sentiments que Jésus a eus, son esprit s'emporta. Et il fut troublé. Deux verbes qui se ressemblent beaucoup, et la présence de ces deux verbes montre que l'évangéliste Jean a voulu insister. Alors on pourrait traduire, je l'ai lu, je ne sais plus dans quelle traduction, il fut violemment ému et se troubla. Jésus a été violemment ému, pourquoi? Le texte nous le dit juste avant, les gens pleuraient autour de lui, Marie pleurait auprès de lui, et les Juifs qui étaient venus pleuraient aussi. Imaginons la scène de cette tension qui était dans ce groupe qui pleurait, qui quelque part n'osait pas dire, et d'ailleurs certains le disaient, c'est le verset après que je me suis arrêté de lire qui le dit, mais peut-être il aurait pu faire quelque chose, quoi. Et voilà les larmes qui coulent. Et là, on imagine ce Jésus qui a cette tension qui monte. Il fut violemment ému, nous dit la Bible. Et puis lui-même a pleuré. Lui, le Fils de Dieu, a pleuré. Le texte, c'est pas le. Il y a deux verbes en grec qui sont utilisés pour les femmes, enfin pour Marie, pardon, et les Juifs qui étaient là. Il y a un verbe, et pour cet autre verbe pour Jésus, ma traduction propose Jésus fondit en larmes. C'est un verbe plus fort, semble-t-il, autant qu'on puisse en juger. Jésus fondit en larmes. Mais imaginons cette scène du rabbin Jésus, du Messie Jésus, qui fond en larmes. Sentiment très fort. Un homme ordinaire sous cet aspect. Et puis le récit continue au verset 38, Jésus s'emporta de nouveau. De nouveau, l'émotion l'a repris. Il vient au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, dit, Seigneur, il sent déjà. C'est le quatrième jour. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Je n'ai pas lu l'entretien qu'il y avait avant le début de ma lecture. Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Quant à moi, je savais que tu m'entends toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui se tient ici pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et là, on voit un Jésus lumineux, un Jésus qui s'adresse à son Père. Ce n'est plus le Jésus troublé et pleurant, c'est le Jésus qui lève les yeux plein de foi et de confiance, plein de sa divinité et de sa messianité. Après avoir dit cela, il cria, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Là, j'aimerais bien savoir où est allé Lazare. Le verset 45 mérite d'être lu. Beaucoup, c'est le suivant, hein, beaucoup de Juifs qui étaient venus chez Marie avaient vu ce qu'il avait fait et mirent leur foi en lui. Ces Juifs ont vu Jésus troublé. Ces Juifs ont vu Jésus profondément ému. Ils l'ont vu fondre en larmes. Ils l'ont vu aussi s'adresser à Dieu le Père dans une foi et une lumière divine parfaite, et ils l'ont vu redonner vie à Lazare. C'est tout cela que les Juifs ont vu. Ce n'est pas seulement le Jésus qui a donné vie à Lazare, c'est aussi celui qui a pleuré. C'est aussi celui qui a été violemment ému. Jésus avait un caractère sensible. C'est donc dans cette humanité-là que Jésus va produire le miracle de la résurrection de Lazare. Et c'est en cet homme qu'ils ont vu, troublé, ému, que les Juifs, nous dit le texte, placeront leur confiance, leur foi. Vivons nous aussi notre caractère de cette manière. Jésus-là n'a pas caché sa sensibilité. Soyons authentiques comme il l'a été à ce moment-là. Et si nous ne ressuscitons personne, si nous n'avons pas de Lazare dans un tombeau face à nous, laissons Dieu faire naître en nous un être nouveau, sanctifié par lui, purifié, mais certainement pas aplani, effacé, lissé pour avoir une bonne façade. Alors, deuxième exemple que j'ai cité, Jésus s'est emporté. Alors, nous le voyons ici, Jésus s'est emporté. Le verbe utilisé ici, c'est parfois, on pourrait le dire, parler durement. C'est pour ça qu'à ma lecture, j'ai parlé avec un certain ton, parce que le verbe du verset 38 nous y conduit. À certains moments, on voit que la personne énervée, on entend ses paroles, et ce sont des paroles énervées. Précisément, j'aimerais en citer une autre de Jésus. Des exemples qui nous gênent peut-être parce que ça ne rentre pas dans notre iconographie du Messie, dans l'image que nous nous faisons, qui était toujours maître de lui-même et sans un éclat, sans rien qui sort du cadre. Et là, je nous montre un Jésus qui vibrait. Un Jésus qui était profondément humain. Et c'est dans, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans cette humanité-là que Jésus nous montre l'exemple à suivre. Jésus s'est emporté. Génération sans foi et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Je cite Jésus. Matthieu 17, cette fois, Alors c'est rapporté dans les trois évangiles. J'ai choisi Matthieu 17, Matthieu, parce que dans les trois premiers évangiles, c'est rapporté, Matthieu, Marc et Luc. J'ai choisi Matthieu 17 parce que c'est là où il y en a le plus. C'est là où on s'en prend le plus pour son grade. Alors il y avait une foule, je raconte un petit peu le contexte, et puis un homme voudrait que amener son fils aux disciples de Jésus pour qu'il le guérisse, et puis il n'y parvienne pas. Et verset 19, les disciples n'y parviennent pas. Les disciples vinrent demander, alors c'est Matthieu 17, 19, hein, les disciples vinrent demander à Jésus en privé, ah non pardon, je me suis trompé, c'est le verset 17, j'avais bien dit. Jésus dit, après que les disciples lui ont amené cet enfant ou ce jeune homme, parce que eux n'arrivaient pas à le guérir, Jésus dit la phrase que je viens de vous lire. Enfin, personnellement, j'évite de parler comme ça, quoi. C'est des mots agressifs quand même que Jésus dit là. D'ailleurs, à qui les disait-il? Est-ce qu'il les disait à ses disciples? En leur disant, bon, écoutez, vous êtes pas doué, quoi. Vous pouvez même pas guérir ce garçon. Le disait-il à la foule qui était autour? En fait, on ne sait pas à qui il le disait. On peut imaginer, c'est plutôt Jésus qui s'est exclamé, sans trop restreindre son propos à un groupe ou l'autre, qui s'est exclamé, mais quelle bande de génération, alors c'est bien traduit, hein, génération sans foi et perverse, mais quand même, perverse, quoi. Ça va loin. Qu'est-ce que Jésus a vécu avant, ça? Juste le récit que nous avons avant, c'est la transfiguration. Alors vous imaginez la transfiguration avec c'est difficile d'imaginer la transfiguration d'ailleurs, hein, mais enfin, on a le récit au début du chapitre 17, Jésus qui se retrouve dans un genre d'endroits mystérieux entre le ciel et la terre avec, alors le texte nous dit, Moïse et Élie leur apparurent, qui s'entretenaient avec Jésus, et puis Simon-Pierre, témoin de cette scène, propose même de les loger dans des tentes, enfin, on voit que c'est quelque chose de très surprenant, et puis cette voix qui retentit dans la nuée, je suis au verset 5, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir, écoutez-le. » Puis après, l'épisode s'arrête. Les disciples tombent à terre, saisis d'une grande crainte. Mais Jésus s'approche, les touche de la main et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Et Jésus était seul. Alors, bien sûr, c'était un moment pour Jésus qui devait être très fort. Et la scène suivante, il se retrouve entouré de gens qui comprennent rien. Ceci dit, je ne leur jette pas la pierre, nous sommes tous de ces gens-là, enfin je parle pour moi en tout cas. Incapable de faire ce qui semblerait facile à Jésus, mais les disciples n'y parviennent pas. Et là, le contraste est très fort, c'est un des commentateurs que j'ai lu qui appuie sur ce contraste. Jésus venait de ce ciel ouvert qu'est ce récit de ce qu'on appelle la transfiguration, hein, cette présence mystérieuse avec Moïse et Élie avec lesquels il dialoguait, et le voilà confronté à un gamin, à un enfant malade qu'on n'arrive pas à guérir. Des gens regardent autour, les disciples qui viennent lui dire « Seigneur, on n'y arrive pas ». Et là, ça sort. Ça sort, mais regardons la suite quand même, hein. Alors les disciples vinrent demander, verset 18, Jésus demande à ses disciples de lui amener l'enfant. Jésus rabroua le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri dès ce moment même. Avec Jésus, tout est simple. Alors les disciples vinrent demander à Jésus en privé. Vous voyez bien que la parole agressive de Jésus n'avait pas fermé la porte au dialogue. Parce que c'est quand même les disciples qui se sont pris cette parole bien dans le nez, quoi, hein, quand même. Hein. Ils viennent voir Jésus, ils lui disent « explique-nous maintenant ». Donc ils ont senti que Jésus, certes, avait eu des paroles agressives, mais n'avait pas rompu les ponts, n'avait pas rejeté ses propres disciples. Et les disciples lui demandent « pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser nous-mêmes ? C'est parce que vous avez peu de foi, leur dit-il. » Amen, je vous le dis en effet, et là cette petite phrase est célèbre, hein. Si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. Une profonde parole d'encouragement que Jésus a donnée à ses disciples après les avoir rabroués. Que devons-nous tirer comme leçon de cet épisode délicat ? Soyons authentiques. Je maintiens cette lecture. Soyons authentiques. Il y a parfois des choses qui bouent à l'intérieur de nous-mêmes. Sachons-le, reconnaissons-le. Nos caractères sont différents les uns des autres. Certains bouent plus que d'autres. Si je cite cette parole de Jésus agressive, ce n'est pas pour excuser un quelconque manque de maîtrise de soi que nous aurions. Et Jésus n'était pas du tout dans ce manque. Ce n'est pas non plus pour justifier nos maladresses, voire notre méchanceté. Ah, ben si Jésus s'est permis de dire à ses disciples que c'était une génération perverse, alors moi, pareil comme tout à l'heure, je peux me lâcher, hein, je peux y aller. Je peux sortir mon catalogue d'insultes. Nous pouvons nous exprimer, oui. Nous pouvons peut-être même exprimer parfois des choses difficiles. Mais attention, Jésus l'a fait quand même pour construire. Il a maîtrisé toute cette séquence, et il y aura d'autres occasions où il s'est exprimé de manière assez forte, verte, avec des mots durs. Mais à chaque fois, c'était au service du bien. À chaque fois, c'était au service de la construction de la vie. Alors oui, nous pouvons nous exprimer, mais ne faisons pas de cette liberté d'expression n'importe quoi. Ne disons pas, et ça fait partie des sujets des groupes de maison, « Je suis comme ça !»« T'as qu'à te prendre ce que je suis dans les dents, tant pis pour toi, mais moi, je suis authentique, je suis comme ça !» Non, ces récits que nous avons de Jésus nous montrent que, oui, Jésus a dit quelque chose de fort, mais ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il a enseigné ses disciples, et il a guéri ce garçon. Prenons bien garde à la suite dans notre récit. Donc l'humanité de Jésus, oui, mais comme un exemple à la fois d'authenticité et de sainteté. C'est dans cette chrétienne et ce chrétien-là, authentique, avec ses tripes, pardon pour l'expression, avec son caractère, c'est là que le Saint-Esprit va faire son œuvre de sanctification. Ce n'est pas dans la façade. Le Saint-Esprit ne travaille pas dans la façade, dans le devant. Il ne fait pas de la chirurgie esthétique. Ou alors il fait une chirurgie de l'intérieur. C'est dans ce chrétien et cette chrétienne-là que le Saint-Esprit va produire son fruit, son œuvre, son action, qu'il va opérer les changements qu'il faut avoir. Jésus a montré bien d'autres traits de caractère. C'est une gageure de le décrire, tant les évangiles sont riches, déjà il y en a 4. Et ensuite, c'est extrêmement touffu et abondant. Et quand je dis touffu, c'est luxuriant, c'est pas du tout une critique. C'est très, très riche. Quelques exemples. Quand même, la maîtrise de soi. Jésus, au début des évangiles, nous est présenté comme jeûnant plus d'un mois, presque un mois et demi, 40 jours. C'est pas donné à tout le monde, déjà. Alors, il y a une petite phrase qui est presque... Je ne veux pas dire drôle, mais était-il besoin de l'écrire ? Il eut faim. Peut-être que ce matin, on a faim. Je ne sais pas qu'on ait jeûné 40 jours, j'en sais rien, peut-être certains d'entre vous ont jeûné, mais on a peut-être une semaine compliquée derrière nous. Peut-être qu'on a faim de repos, peut-être qu'on a soif de juste être tranquille. Le culte de tout à l'heure, moi j'ai dit « Ah, on ferme les yeux et puis Adeline nous disait, voilà, on est bien, on est pour illustrer le propos sur Jésus, justement. Mais moi, je l'ai pris, je dis, ouais, parfois, on n'est pas bien, quoi. Hein, et ici, c'est bien, on peut se reposer, mais on a eu mal cette semaine, on a eu des angoisses, on a eu des défis qu'on n'est pas arrivé à relever, on a eu des échecs, on a eu des victoires qui nous ont coûté cher, on a toutes sortes de choses, on a faim. Qu'est-ce que Jésus a fait quand il avait faim ? Est-ce qu'il est tombé dans le piège du diable, hein, puisque c'est le récit de la tentation ? Le diable venait voir Jésus et puis il proposait toutes sortes de choses qui étaient des propositions captieuses, hein, qui n'étaient pas du tout innocentes. Qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Il est resté lui-même. Il est resté fidèle à ce qu'il était. Il n'a pas vendu son âme parce qu'il avait faim. Quelle belle maîtrise de soi. Quand nous faisons, nous, des choix en tant que chrétienne, en tant que chrétien, choix d'obéir au Seigneur, choix d'être fidèle, et qu'on a des moments de fatigue, de lassitude, de souffrance, prenons exemple là aussi sur ce Jésus. Moi, j'y arrive pas toujours. Prenons exemple sur ce Jésus qui a tenu, malgré le fait qu'il avait faim. Le courage. Alors, là, je viens de parler du début de l'évangile. Je vais parler de dernier exemple, c'est tout à la fin. Quand Jésus, avant d'être arrêté au jardin de Gethsémané, alors là, il priait. Et là, les expressions sont pas toujours évidentes à traduire. Il avait de l'angoisse, il avait de l'agonie. Alors, les théologiens discutent sur le sens du mot agonie. Est-ce qu'il avait peur? Jusqu'au point où certains de ses vaisseaux sanguins, sans doute à cause du stress, de la tension qu'il vivait, avaient lâché et du sang perlait dans sa transpiration. Je veux dire, quand on en arrive là, ne me dites pas que c'est juste parce qu'il avait juste un vague conflit de pensée, quoi. Il y avait quelque chose de très très fort qui vivait là. Il savait ce qu'il attendait et il était très mal. Et il en était même arrivé à dire, bon, mon père, si je peux éviter ça, franchement. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dominé ça et il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Courage. Moi, je sais pas ce que j'aurais fait dans cette situation-là. Courage. Il avait peur, disons-le, ou de l'angoisse, ou une tension très très forte. Qui l'a dominé? Parce qu'après cet épisode-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est laissé arrêter. Il a même rabroué l'apôtre Pierre qui cherchait à le défendre. Il s'est laissé emmener. Il s'est laissé accuser. Il s'est laissé frapper. Il s'est laissé condamner. Il s'est laissé crucifier. Et j'oublie certainement des détails. Enfin, des détails, des éléments. Qu'est-ce que nous enseigne Jésus? Il ne nous enseigne pas de ne pas avoir peur, d'être des chrétiennes et des chrétiens en granit. Il nous enseigne le courage. Il nous enseigne l'abnégation. Comme moi, lorsque les défis se présentent, enfin, comme Jésus, je dois faire comme lui, lorsque les défis se présentent, lorsque j'ai peur, lorsque j'en crève devant la douleur, devant le deuil, devant la souffrance, je vais prendre exemple sur ce Jésus qui a dominé sa peur et qui est allé jusqu'au bout de sa mission. Jésus a tenu. Quel bel exemple il nous donne d'une humanité sanctifiée, d'une humanité visitée par Dieu. Dans son cas, c'est d'une humanité qui était Dieu. Et qu'il est toujours. Et j'en viens au verset thème de ma prédication. Il était temps, puisque j'ai fini, en fait. C'est celui qui est marqué dans le quad 9. Jésus-Christ est venu en chair. Le contexte de l'évangile, l'épître de Jean, je le laisse de côté pour n'en garder que cette phrase. Et je me suis permis d'ajouter quelque chose. C'est pas bien. En même temps, si. Jésus-Christ est venu en chair et en os. Quand on dit en français « en chair et en os », ça veut dire « c'était vraiment un gars, quoi, une personne avec toute la réalité humaine en chair et en os ». Et c'est, je pense, ce que veut dire ce verset. Le mot « chair » en grec veut bien dire la nature humaine. Il a plusieurs sens, mais dans ce cas-là, c'est vraiment « il a endossé pleinement l'humanité ». C'est pour ça que je vous propose de garder « Jésus est venu en chair et en os ». 1 Jean 4, 2. C'est en tant qu'homme qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il nous montre comment être des hommes et des femmes avec un caractère sanctifié par Dieu, éclairé par Dieu. Jésus a eu toutes sortes de traits de caractère. Il a ri, pleuré, il s'est fâché, il a connu la fatigue, l'angoisse, l'inquiétude, nous l'avons dit, et j'en passe. Mais en exprimant tout ce qu'il était, il n'a jamais fait de fautes de comportement. Il a été, nous dit la Bible, tenté en toutes choses, sans jamais pécher. Le ton est donné. Premier dimanche de l'Avent, incarnation. Voilà la leçon qu'il nous faut tirer, c'est que ce Jésus-là nous donne un magnifique exemple, le meilleur qui soit, d'un homme qui vive avec Dieu. Je vous invite à prier. Nous te remercions, Seigneur, pour l'humanité de Jésus. Parce que cette humanité-là nous parle. Jésus est un homme et il nous montre comment vivre notre humanité. Seigneur, nous te prions de nous conduire sur ce chemin de l'imitation de Jésus-Christ. Jésus est le Fils de Dieu, certes, c'est le Messie. Mais Seigneur, nous, même si nous ne sommes pas le Messie, nous avons quand même ce défi de l'imiter. Nous te louons, Seigneur, pour ta grâce et ton pardon, parce que qui d'entre nous n'a pas chuté, ne s'est pas coupablement éloigné de cet exemple donné par Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu acceptes notre repentir, notre demande de pardon. Nous te louons pour la grâce que tu nous fais, jour après jour. Amen.